18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, pour clore ce week-end, eh bien cette semaine pardon, plutôt pour entamer le week-end, eh bien je vous souhaite la bienvenue, en tout cas bienvenue puisque au sommaire de cette émission, eh bien de belles choses vous attendent. Nous allons continuer de parler de foot, oui parce que c'est ce week-end footballistique. Maroc-Croatie, un remake de la phase des poules pour clore le podium de la Coupe du Monde. Eh bien, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Qui, selon de la Croatie et du Maroc, va l'emporter pour la troisième place, en sachant que du côté des Maroc, eh bien, on a annoncé déjà quelques absents. Ils sont blessés et puis ils ne pourront pas jouer la petite. En tout cas, le match Croatie-Maroc. Et puis, on parlera aussi de la France-Argentine. Qui, de la France ou de l'Argentine, peut aller chercher cette coupe? Je voudrais vous entendre là aussi. Est-ce Messi? Est-ce Mbappé? Mbappé-Messi? Selon vous, dites-nous tout. Voilà, Anthony, il a une décision qui est très ferme. Mbappé.
Ah oui, l'équipe de France, voyons, Kylian Mbappé, ça
plus
serait
que
magnifique.
Jamais. Plus
ça
que jamais.
Magnifique à 24 ans, bientôt d'avoir une deuxième étoile.
Plus que jamais, on est d'accord. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite, donc je veux vous entendre partout en France. Venez dès maintenant exprimer justement et on parle football ensemble. Ensuite, tout à l'heure, à 18h30, on aura Michel Taube et son billet d'humeur avec le Quad 9. Et puis les débattants influenceurs qui viendront parler du Qatar Gate, puisque le compagnon de la vice-présidente, de l'ex-vice-présidente, figurez-vous, il balance sur sa femme. C'est pas cool, il mérite une clochette, lui. Il a dit, le mec, il balance tout sur sa femme. Il a dit, tu sais, la balance, quoi. Il balance sur sa femme, il balance sur les collègues eurodéputés. Le mec, il a décidé, il crache tout. Il a craqué. Ah, putain. Ouais, bon, je me passerai de commentaires. Non, mais c'est vrai. Tu commences à balancer.
Sympa le couple.
Sympa le couple, comme tu dis. Hein. Et sympa les amis. Je sais pas, mais bon. Ah là là. Retraite avec Emmanuel Macron et on parlera aussi de la Coupe du Monde, puisqu'elle est footballistique ce week-end. Allez, c'est parti, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Comment les Bleus tentent d'échapper au virus qui les frappe? Il paraît qu'il y a un petit virus qui circule à cause de la clim là-bas au Qatar et que les quelques-uns des Bleus, eh bien, sont touchés par un petit virus. Voilà, ils toussent.
C'est ce qui se dit. Ouais, Kingsley Coman est resté à l'hôtel aujourd'hui. Il y a pas eu de séance. Ouais. Colomwani aussi.
Ouais.
On espère pas trop grave. A priori, il serait apte pour dimanche, mais on n'a pas encore confirmation.
Ce petit virus, paraît-il, c'est la clim. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire.
Hein.
La clim qui, évidemment, ce contraste d'extérieur-intérieur, c'est-à-dire qu'il fait très chaud à l'extérieur, et puis dès qu'on est dans l'enceinte d'un lieu, il fait extrêmement, extrêmement froid à cause de la clim, et bien ça peut provoquer effectivement ce choc. Allez, venez en parler. Le standard est ouvert maintenant. Anthony vous attend, 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, là, maintenant, tout de suite, je veux vous entendre et entendre le standard venir vous exprimer sur France-Argentine. Qui voyez-vous donc, évidemment, emporter cette Coupe du Monde? Eh bien, venez nous raconter un petit peu de Messi à Mbappé. Qui voyez-vous, justement, partir avec cette belle Coupe? Et puis, on parlera aussi, là, maintenant, je vous donne aussi ce second sujet, du Maroc et de la Croatie. Quelque sorte un remake de la phase de poule pour clore le podium de la Coupe du Monde avec cette troisième place qui est disputée.
Ce qui est assez drôle, Adil, c'est que tout à l'heure, sur le site de l'équipementier de l'équipe de France, ils ont publié le maillot avec la troisième étoile qui était déjà disponible sur leur site.
Non.
Ah si, si.
Sur leur site.
Ouais. Tout de suite, après cette gaffe, ils ont tout de suite retiré. Mais sur Twitter, ça a été repris en masse en marquant un maillot 3ème étoile.
Eh ben,
voilà.
Ouais. Bon, que de boulettes, hein. Ouais, je dirais que c'est voulu.
En espérant que ça porte pas l'œil à l'équipe de France.
Exactement. Allez, je voudrais vous entendre. Le téléphone a du mal à sonner ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe, les amis auditeurs? Bah, 01 53 48 3000.
Ils sont peut-être déjà en vacances en week-end.
Non, et vous, non, il n'y a pas de vacances. On vous attend, chers amis. On continue de parler foot, nous, ici. Les vacances, c'est dans quelques heures. pour celles et ceux qui vont le vivre. Si vous avez envie de parler d'un autre sujet, venez nous en parler. Si vous voulez nous parler, je ne sais pas moi, de la sobriété énergétique, parce que vous avez envie, parce qu'on est touché là en ce moment avec ce froid et que ça vous inquiète, venez en parler. Si vous voulez parler du Qatargate, avec notamment la vice-présidente qui a démissionné, dont les soupçons de corruption, continuent de planer, son compagnon, il l'a balancé dans tous les sens. Donc le compagnon, est-ce que vous avez envie de faire un commentaire? Venez en parler aussi, 01 53 48 3000. Je vous attends. Vous savez quoi? Avant que le téléphone sonne, on va faire une courte page de chanson, une petite musique rapido, en attendant évidemment que les auditeurs nous appellent au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Chers amis, je vous attends tout de suite, sauf s'il y en a. Allez, tiens, je le prends en direct, lui. Allô, bonsoir. Bonsoir.
Allô. Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir. Quel est ton prénom, s'il te plaît?
Mimoun de la Tarta.
Mimoun, bienvenue. Alors, parlons justement de vous savez, de cette Coupe du Monde, là, ça y est, qui ferme un chapitre ce week-end.
Oui.
Qui voyez-vous l'emporter? L'Argentine, la France?
Moi, dans un petit temps, je vais parler du match du Maroc-France. Si vous me permettez.
Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Parlez de ce que vous voulez.
Je tiens à féliciter d'abord les Lions de l'Atlas, qui sont vraiment des Lions.
Oui.
On atteint la demi-finale et ça n'a jamais été arrivé à l'équipe du Maroc depuis 1940.
C'est vrai.
Donc, le deuxième point que je veux parler, c'est l'arbitrage dans ce match-là. Il a passé du côté de l'équipe de France, franchement. Il y avait deux pilotes qui n'ont pas signalé, il n'a pas même revenu au bord. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait la pression sur l'arbitre. Ça, c'est vrai. On a vu même des potes qui ont signalé l'arbitre en faveur de l'équipe de France. Et non pas en faveur de l'équipe du Maroc. Et même quand sur le match, on voit deux pilantis, et au lieu de donner un pilanti, il a donné un carton jaune.
Oui.
Donc cet arbitre-là, il a fait ce qu'il a fait pour que la France gagne d'une façon ou d'une autre. Voilà.
Bon, ce qui veut dire concrètement, vous savez que le Maroc a justement déposé un recours, voilà, c'est chercher le mot, un recours auprès de la FIFA, hein, pour les arbitres.
Elle était le président de la FIFA en tribune. Elle était sur place. Et vous comme nous, en tant que téléspectateurs, si vous revenez au match, vous allez voir. C'est un pilanti, même deux pilantis, il n'a pas signalé. Au lieu de donner un pilanti au Marocain, il a sorti un carton jaune. Il y avait le bar quand même. Il doit retourner au bar pour bien préciser les choses, comme ils font les arbitres. Lui, il avait la pression. L'arbitre, je sais bien, il avait une pression d'un côté, je sais pas. Et donc, il était en faveur de l'équipe de France.
Bon.
Donc, de toute façon, les Lions de l'Atlas, ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné le match, mais ils ont gagné l'amour des milliers d'Africains, des Arabes, des musulmans.
Vous avez bien raison, Mimoun.
Ils ont bien honoré le nom des Arabes et des musulmans et des Africains partout dans le monde. C'est ça l'essentiel.
Merci, Mimoun. Vous avez raison. C'est vrai.
Oui. Donc, malgré l'arbitre qui a fait des choses qui ne sont pas logiques, tout le monde le dit. Et tout le monde le voit, ça nous fait mal, ça fait mal à cette sélection, à ces jeunes-là, qui ont un rêve de d'atteindre la finale au moins, mais l'arbitre n'était pas à leur côté, l'arbitre était au côté des Français. Et ça, on le voit, on le dit, on ne cache pas la vérité.
Bon.
Le Maroc est la
première. Je laisserai au soin aux auditeurs de nous dire s'ils pensent la même chose ou ça, Mimoun. Merci, Mimoun.
Merci beaucoup.
Si vous voulez réagir à ce que vient de dire Mimoun, vous êtes les bienvenus, chers amis. Oussam, bonsoir, Oussam.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville, mon cher Oussam?
J'appelle de Ghani.
Ghani, on connaît, effectivement.
Ouais, Ghani,
on vous écoute, Oussam.
Bah, écoutez, pour moi, ça a été un match très, très intense. En tant que franco-marocain, on n'a jamais eu l'occasion de rêver, ne serait-ce, de cette affiche en demi-finale de Coupe du Monde. Et sincèrement, ça va être un match inoubliable parce que voilà, la France elle a gagné. Félicitations à eux.
Oui.
Malgré qu'il y a eu des petites erreurs d'arbitrage. Mais moi, je pense que c'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a un arbitre d'origine mexicaine. Et on sait, Messi, qu'il a écrasé le maillot. Il a écrasé le maillot du Mexique dans le vestiaire. Donc, je me dis, est-ce que l'arbitre, il s'est pas dit... voilà, quoi. Mmh. On envoie la France pour qu'il lui rafle le titre, quoi.
Ouais, ouais. Bon. Ce recours, vous pensez qu'il a des chances ? Je crois pas. Hein.
Ce recours, sincèrement, il faudra oublier. Certes, il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais je pense qu'il faut dire félicitations à la France parce qu'ils n'ont pas aussi démérité. Et voilà, quoi. Après, on espère cette troisième place pour la Croatie.
Eh bien, merci Oussam d'être intervenu.
Ouais, je vous en prie, BRFM.
Et à très vite. Très, très vite. 18h11, les appels se succèdent. Ça, c'est une très bonne chose. Venez justement réagir. Aziz Devreux, bonsoir Aziz.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, mon cher Aziz.
Merci.
On vous écoute.
C'est la première fois que j'ai réagi sur la radio.
Ah bon ? C'est la première fois ?
Oui, c'est la première fois, oui.
Soyez le bienvenu. J'espère pas la dernière.
Oui, j'espère, parce qu'il y a des moments où on a du mal à vous... Voilà, à se contacter, c'est pour ça.
Écoutez, vous êtes le bienvenu. On vous écoute alors.
Merci beaucoup. Alors, concernant le match de la finale, moi franchement, si la France joue le même jeu que qu'ils ont joué contre le Maroc, je ne m'attendais pas beaucoup qu'ils gagnent. Oui. Franchement, ils n'ont rien donné contre le Maroc, surtout le deuxième temps.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire.
Il faut qu'ils changent un petit peu, parce que franchement, les Marocains étaient super forts, surtout le deuxième temps. Et j'espère que la France va gagner avec un autre jeu offensif. Bien, tout qu'ils défendent super bien contre les Argentins.
Elle a des chances face à Messi, face aux Argentins, justement.
Comment ?
Elle a des chances, la France, face aux Argentins ou face à Messi ?
Oui, elle a des chances, mais pas avec le même jeu qu'ils ont mis contre le Maroc. Il faut qu'ils changent. Qu'ils changent un petit peu parce qu'il n'y a pas de rage, vraiment. Il n'y a pas de volonté de gagner. Ils ont rentré, surtout, je vous dis, la deuxième mi-temps, les Marocains ont rattrapé vraiment la faute qu'ils ont mis la première partie de 45 minutes. Les Marocains, la faute qu'ils ont mis contre le Maroc, c'est de jouer avec 5 défenseurs en arrière contre les Français qui ont une très bonne attaque. Et c'est la grave erreur qu'ils ont mis les Marocains.
Ouais, effectivement. Ouais.
C'est la grave erreur. Et moi, c'est ce que j'ai dit. J'avais des amis à moi. Je me dis, voilà, le match du Maroc, France, celui qui en casse le premier, c'est lui qui perd. Mais j'avais raison.
Eh bien, écoutez, ouais. Si vous avez raison, effectivement, donc vous étiez bon. Vous avez parié, vous avez gagné.
Oui, j'ai gagné. Oui, j'ai gagné.
Ah, bravo. Bravo.
J'ai gagné sur toutes. J'ai parié sur tous les matchs du Maroc, du début jusqu'à la fin. Et j'ai gagné tous les matchs.
Eh bien. Bravo, c'est tellement rare.
J'étais joueur un petit peu au milieu de terrain offensif, on est un petit peu, ça va. Et j'espère contre la Croatie, les Marocains vont entrer avec plus de volonté de gagner, avec une équipe offensive. Ils ont une très belle équipe, en favorable pour la CAN de 2023. Et c'est ça. Je suis algérien, Kabil, mais franchement, ils méritent. Bravo à eux et bon. Félicitations, bon continuation à tout le monde.
Merci mon cher Aziz, merci.
Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.
Au plaisir. Sofiane de Paris, justement. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute mon cher Sofiane.
Bah, bravo au Maroc pour ce qu'ils nous ont offert. Hein. Tout plein d'émotions, des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. C'est formidable. Puis je voulais revenir sur ce que vous avez dit... Est-ce que le recours a des chances ? Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence de presse de l'entraîneur. Je pense qu'ils font ça que pour la forme. C'est pour dire, voilà, il y a une erreur. Hein. Mais sinon, ça ne change rien à la qualification de la France.
Bon. Ouais, exact. Qu'est-ce que vous voyez, vous
oui. Si je vous donne un exemple, la France a déposé un recours contre la Tunisie alors qu'elle était qualifiée et classée première du groupe. En fait, quand il y a une erreur dans l'arbitrage, on le signale par un recours, c'est le rôle de la fédération. Après, ça ne change rien à la qualif de la France. Bonne chance à la France. Et puis, c'est tout.
Voilà. C'est exactement ça. Merci, Sofiane.
De rien.
01-53-48-3000. 01-53-48-3000. Continuez de nous appeler. Venez justement en parler. Ce Croatie-France, les erreurs d'arbitrage. Est-ce que vous voulez partager justement? Mais également aussi cette finale attendue. Cette affiche argentine-française. Venez nous commenter tout cela. On vous attend. 01-53-48-3000. On marque une courte pause. On se retrouve à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h21 précisément, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est votre espace de liberté et d'expression. 01-53-48-3000. Nous continuons de parler de tous ces deux matchs attendus ce week-end, évidemment, avant la fermeture de cette Coupe du Monde organisée de façon extrêmement exceptionnelle par le Qatar. On doit le reconnaître, effectivement. Et on va aller direction, Grenoble. On va accueillir Yassir. Bonsoir Yassir.
Oui, bonsoir Adil. Ça
va ? Bienvenue. Très bien, et vous-même ?
Ça va. Ouais, je vais vous parler, je vais revenir sur les deux matchs.
Oui.
Première chose, je voulais revenir sur le match qu'ils ont joué le Maroc contre la France. En fait, on recensait un peu qu'on était trahis par rapport à beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'ils ont sorties, parlent de la présence d'Emmanuel Macron sur les tribunes et tout ça, et la pression sur l'arbitre et tout ça. C'est ça. Et c'est la première fois qu'on voit pas lumière de Qatar, qui n'était pas. Normalement, c'est un fan de l'équipe de Maroc. Toutes les matchs, et là, c'est pour tout le Maroc jusqu'à la fin, même son père et sa mère et tout ça, avec le drapeau marocain. Mais ce match-là de demi-finale était bizarre, parce qu'il n'y avait que Emmanuel Macron avec le président de la FIFA.
Je ne sais pas si ça revient.
Il y a 80%, même si on regarde, il y avait un gros match Angleterre-France, même pas. La France-Angleterre, c'est des gros matchs. Normalement, il doit insister à ces matchs-là, même la finale, on va dire. Et même pas. Il fait un président, il fait 7 heures de vol de la France jusqu'à Qatar pour insister à un match de demi-finale contre le Maroc. Mais je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui parlent de ça.
J'ai pas envie de rentrer dans ces histoires de complotisme, parce que là, bon, le fait qu'il n'y ait pas la présence de l'émir, le fait qu'il n'y ait pas effectivement un certain nombre de choses, bon.
Oui.
Certainement, peut-être que vous avez raison, mais je doute quand même.
Oui,
est-ce que vous pensez que la présence d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, le président de la République française, vous pensez qu'il a. Ça influe quelque chose dans le jeu de cette demi-finale?
Oui, exactement. Exactement, monsieur. C'est ça, en fait, on a ressenti, parce qu'en fait, même le VAR, on regarde des arbitres, il y a un faute dans le carré 18, normalement, automatiquement, il parle, il communique, et après, il siffle, il n'y a pas de faute. Même lui, même pas, il n'a pas, directement, il a sorti la carte jaune. Il y a deux pénalties, mais le VAR, il y a 6 personnes devant un écran, il ne voit pas la faute, la première, la deuxième, la troisième faute, mais c'est ça. Mais je sais pas. Toujours, on va dire je sais pas, parce que c'est en train de parler, mais je sais pas. On fait des analyses, mais après.
Ben écouterai, je vais laisser le soin aussi aux autres auditeurs de voir s'ils partagent votre point de vue.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, ce que vous recoupez comme information entre la présence d'Emmanuel Macron, le manque de présence subite de l'émir,
exactement,
qui jusqu'ici était venu avec le drapeau, etc. Bon, tout ça me paraît un peu.
Je vous donne une autre information. En fait, si on revient sur le match de Portugal-Maroc. En fait, la fin, quand l'arbitre il a sifflé la fin du match, il y a tout le monde qui était là, ils étaient contents et tout ça. Le seul qui, si vous regardez, vous allez voir le vidéo de le président de la FIFA, il était pas content, en fait. Donc son visage, ça se voit, en fait. Il y a beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ils ont sorti cette vidéo.
Eh ben écoutez, vous savez quoi, cher ami Yassir de Grenoble, je vais laisser les amis auditeurs répondre à vos commentaires.
Ben, merci Adil et bonne continuation.
Merci à vous aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir. Redouane du 93. Quelle ville du 93, mon cher Redouane?
Pour venir, Adil.
Oui, bonsoir, ah, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Mais super. Vous nous appelez de quelle ville?
Je suis de Bobigny.
Bobigny! Alors Redouane, vous dites quoi, vous? Vous avez entendu Yassir nous dire de Grenoble?
Ouais, j'ai entendu.
Ouais.
Normalement, je dois ajouter quelque chose.
Oui.
Le système de jeu, le tactique.
Oui.
Le Maroc n'a jamais cherché le ballon.
Mmh.
Il a toujours défendu. Après, il joue les contre-attaques.
Oui.
Là, on voit que M. Regragui, il a changé le système. Pourquoi ? On a toujours gagné avec ce système. Et d'un coup, il change le système.
Mmh.
Ça, c'est bizarre.
Bon.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. L'arbitre n'a pas sifflé de penalty.
Mmh. Ouais,
malheureusement,
oui.
Malheureusement, les gens du VAR, ils n'étaient pas là ou je ne sais pas quoi.
Ouais.
De penalty clair et net. La troisième des choses. Monsieur le président de la FIFA, il n'était pas content le jour de Portugal, comme il a dit le frère de Grenoble. Mais on a vu au match de la France, il était très content. Il était souriant.
Mmh.
Voilà.
Bon.
Voilà. Et l'absence, de Cheikh Tamim, qui était toujours à supporter le Maroc. Son absence. Il y a quelque chose qui cloche.
Bon.
Voilà.
Ça va loin tout ça quand même, hein.
Ah, il y a quelque chose qui cloche.
Oh là 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 là. Là, j'ai dit, ça va loin tout ça quand même, non?
Ah ouais, c'est la vérité, c'est ce qu'on a vu. Moi, je transmets la voix du Marocain en anglais.
Bon. Bah écoutez, ok. Merci Radouane.
De rien.
On va voir si les autres auditeurs partagent tous ces points de vue. Karim, bonsoir Karim.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, tous les auditeurs de BRFM.
Vous nous appelez d'où ? Vous nous appelez d'où ? Bah, très bien.
Je suis de version parisienne.
Eh bien, on vous écoute, bienvenue.
Merci. Bah, en fait, juste en réponse à l'histoire qui était juste avant moi, je pense que Regragui a changé de système de jeu parce qu'il avait deux latéraux qui sont vraiment très très forts, qui étaient Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Mmh. Et aussi parce qu'on avait le capitaine, il était un petit peu fatigué, enfin, il était un peu blessé, donc pour le soulager un peu, il a joué avec deux centraux en fait en plus. Pour pouvoir le soulager, en même temps pour pouvoir bloquer Dembélé et Mbappé. Ça, c'est au niveau tactique.
Ouais.
Ça, c'est, en fait, c'est pas qu'on avait peur, mais bon, mais quand même, ce sont des gros noms de football français. Je pense qu'ils sont très, très forts. Et du moment qu'on met deux centraux défenseurs, donc je pense que c'était fait exprès. Après, malheureusement, quand on enlève un, enfin, quand on rajoute un défenseur en plus, donc, obligatoirement, en fait, on enlève un autre joueur. Donc, malheureusement, on l'a pris du milieu. Et c'est là que Griezmann, en fait, elle a eu, il était un peu, comment dirais-je, il était libre. Donc, il pouvait donner des passes et tout ça. Mais bon, après, je pense que sur le match, en général, la faute, enfin, la glissade de Yamir, en fait, c'était ça le problème. Enfin, le premier but, on l'a encaissé très, très tôt. Mmh. Donc, ça a un petit peu, impacté sur le match. Mais je pense, en général, après, on va pas rentrer sur les pénalties et tout ça. Parce que après, le match, il se jouera jamais. Peut-être que dans 3-4 mois, le président de la FIFA va dire oui, effectivement, il y a eu un problème, il y a eu une faute. S'excuser sans s'excuser. Donc, forcément, vous savez comment ça se passe. Hein. C'est pas la France, c'est pas le Brésil. Donc, c'est que le Maroc. Donc, voilà. On va pas rentrer là-dessus. Ce qui est important et ce qui est honorable de la part du Maroc, c'est que voilà, c'est une très bonne équipe. Il a montré au monde entier que partant de loin, on peut y arriver. Ça fait c'est le premier pays du continent qui arrive à ce stade-là. Je pense qu'on doit être fiers, comme Marocains, comme Africains, comme Arabes, musulmans. Je pense que c'est une très très bonne chose. Et voilà, on leur a dit juste de continuer comme ça. Ouais. Et il faudrait juste ne pas, comme il a dit à Gary, c'est pas comme aujourd'hui, on va dire oui, voilà, on est arrivé en demi-finale. Demain, on va jouer le troisième place.
Merci Karim d'être
intervenu. Merci à vous.
Vous êtes nombreux à penser effectivement comme ça. Bon, bah écoutez, vous êtes nombreux à le partager notamment. Tiens, je vais voir si Nordine du 94 le partage aussi. Bonsoir Nordine.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez de quelle ville du 94 ?
Je suis sur Créteil. C'est Nordine, le chauffeur de taxi.
Ah, monsieur le chauffeur de taxi. Bienvenue. Quel plaisir de vous entendre, Nordine.
Merci. Au fait, lundi, c'est bon, j'ai réussi à l'entraînement. Hein. C'est bon, j'avais réussi. Hein. Merci.
Ah, c'est bien.
Okay. Dans les bouchons, j'étais dans les bouchons. Oui, donc avec tous les auditeurs qui ont parlé, il y a du vrai. Il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il y a le président de la FIFA qui était content. Il y avait aussi le président des 3F. Il était là aussi. Il n'y avait pas que Macron et le président de la FIFA.
Oui.
Mais bon, quand on voit le match contre l'Angleterre, il y avait des avantages d'arbitrage pour la France. Ça ne veut pas s'étonner qu'il y ait des avantages d'arbitrage pour contre le Maroc aussi.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Et en même temps, c'est vrai que le premier but, ils le prennent directement, donc ça casse un peu le moral. Et en même temps, il faut attirer son adversaire en dehors de sa surface. Il faut faire face à son adversaire. Sauf que Deschamps avait préparé sa muraille. Maintenant, en même temps, ils ont des joueurs techniques, ils ont des joueurs qui évoluent dans les grands clubs, ils ont expérience. Mais c'est dommage. Mais je crois pas que je vais aller en cours. Le recours, faut oublier. Oublier.
Ah, ça, c'est sûr. Ça va pas déboucher.
Mais maintenant, il faut saluer la Fédération marocaine de football qui a mis les moyens et qui a mis les bonnes personnes au bon poste pour avoir cette belle équipe.
C'est pas faux.
Faut pas lâcher la troisième place. Il y a rien qui est perdu. Il faut avoir la troisième place. Faut rien lâcher.
Merci Nordine pour.
Et dernière chose, j'espère que les pays d'Afrique, à la prochaine Coupe du Monde, vont mettre aussi les moyens pour avoir de bonnes équipes, parce que une équipe européenne préfère jouer avec une équipe sud-américaine qu'avec une équipe africaine. C'est beaucoup plus dur avec une équipe africaine. Donc, faut mettre les moyens, faut se battre.
Exactement. Merci Nordine, passez une bonne soirée. Et merci de votre fidélité surtout, et bon courage à tous vous les taxis.
Je vous en prie, au revoir.
Le Quoi de Neuf, avec une minute de retard. C'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, vous le savez, comme chaque vendredi, c'est avec Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale. Bonsoir, Michel Taube.
Bonsoir, cher Adil.
Comment ça va? Mais très bien, comment je vous remercie infiniment. Nous, on se porte bien, on a beaucoup d'appels, beaucoup d'auditeurs qui réagissent justement face à ce match qu'ils considèrent, bon, je ne vais pas employer effectivement certains mots utilisés par nos auditeurs, mais bon, beaucoup d'auditeurs regrettent effectivement des erreurs d'arbitrage. Alors, on vous écoute justement, vous aussi, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur sur cette Coupe du Monde. On vous écoute, mon cher Michel Taube.
Oui, alors, en fait, bon, on aurait pu parler d'autres sujets, notamment aujourd'hui, ça fait 3 mois que Madame Mahsa Amini a été assassinée en Iran, et oui, il y a une grande, grande révolution actuellement. Ça s'appelle Femme, Vie, Liberté. Bon, j'aurais pu en parler, mais j'aimerais rester quand même dans l'ambiance de la Coupe du Monde, parce que c'est tous les 4 ans, c'est quand même un événement important. Et je voulais un peu en tirer un bilan presque politique. Alors évidemment, il y a la partie sportive, mais la partie sportive, quelque part, elle est tellement représentative du monde dans lequel on est, avec l'accession en demi-finale du Maroc. C'est vraiment le continent africain, c'est le monde arabe qui émerge sur la scène internationale, et c'est une réalité géopolitique dont le football est finalement le reflet. Mais la Coupe du Monde, ça a été aussi, il faut le dire, un budget de 220 milliards de dollars. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça veut dire? 220 milliards de dollars. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, on évalue que ça va coûter 8 milliards d'euros à peu près. Donc ça vous donne un peu une idée des moyens colossaux que le Qatar a mis, gigantesques que le Qatar a mis dans l'organisation de cet événement. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas rapprocher au moment où Emmanuel Macron y a été hier, il va y retourner dimanche, de le rapprocher de ce qui s'est passé à Bruxelles, le Qatar Gate, où on voit toute la stratégie lobbying du Qatar qui se passe à la fois avec le foot, mais qui se passe aussi dans les arcanes des pouvoirs en France, au Parlement européen et ailleurs. Et voilà, tout ça, ça doit nous faire réfléchir. Oui, à la fête du sport, oui, à la fête du football, mais en même temps, est-ce qu'on marche pas sur la tête? Est-ce qu'on n'est pas sur une planète qui est un peu hors des réalités? Honnêtement, il faut avoir l'honnêteté quand même de s'interroger là-dessus. Alors, c'est pas pour gâcher la fête, hein, encore une fois. Moi, je pense que c'est un événement extraordinaire. Il faut bien ne pas oublier que la finale de la Coupe du Monde de football que jouera la France contre l'Argentine dimanche, c'est l'événement le plus vu au monde. Le plus vu au monde. Les Jeux Olympiques, tous les autres événements sont loin, loin, loin derrière. Dimanche à 16h, et demain déjà pour le match de la troisième place, où j'espère que le Maroc va battre la Croatie. Alors moi, je suis pour le Maroc. Alors là, clairement, c'est les événements qui, à ce moment-là, rassembleront le plus d'humains sur la Terre. Donc voilà, c'est un bilan un petit peu en demi-teinte que je veux faire. Victoire du football, victoire de l'allégresse populaire, et en même temps, dans un contexte qui est quand même, franchement, un petit peu à côté des réalités dont nous souffrons tous aujourd'hui dans notre monde. Donc, il faut en avoir conscience, mais allez, que la fête continue encore 2 jours, et après on pourra tirer peut-être un vrai bilan de cette Coupe du Monde.
Un grand merci, mon cher Michel Taube. On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Partagez, grand plaisir. Notamment. Prenez soin de vous. Je vous souhaite. Oui.
J'ai commencé la journée avec Beurre FM et notre ami Karim Zeribi, les engagés.
Ah, ce matin, oui.
Et je la termine avec vous, mon cher Ladil Farkan, c'est une joie. Et je salue les auditeurs de Beurre FM.
Oh là là, quel bonheur, quel plaisir. Allez, prenez, passez un bon week-end, mon cher Michel Taube, et prenez soin de vous.
À très très vite.
0153483000, continuez de nous appeler, 18h35. On se retrouve dans une polyminute, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et il est 18h42, dans une poignée de minutes, on va retrouver le face-à-face, on continue de recevoir les auditeurs, quelques-uns pour commenter ce week-end qui nous attend d'ailleurs, à la fois pour ce match qui se dispute pour la troisième place, le podium, ce remake Croatie-Maroc, mais également aussi, vous le savez, Argentine-France, qui va l'emporter de Messi à Mbappé, venez exprimer évidemment vos commentaires. Tiens, Radiza, c'est ça du 94?
Oui, c'est ça. Bonsoir.
Bienvenue. Quelle ville du 94?
J'habite à Maisons-Alfort. C'est la première fois que je vous appelle.
La première fois
que je contacte la radio.
Excellent, oui. Excellent. Qu'est-ce qui vous a poussé à écouter la première fois et à nous appeler la première fois?
Allô?
Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écouter la première fois et à appeler la première fois?
Non, c'est pas je vous écoute pour la première fois. J'interviens pour la première fois de ma vie. J'ai jamais
dit. Pourquoi vous intervenez pour la première fois? Qu'est-ce qui vous a poussé?
C'est le foot.
Le foot.
Je voudrais juste dire que.
Eh ben, bienvenue Radiza. Oh. Faut pas hésiter à appeler la prochaine fois.
Merci beaucoup. En fait, pour moi, ils ont déjà ramené la coupe
à la maison.
Vous savez pourquoi?
Mets-leur, Anthony. Ramène la coupe à la maison.
Non, c'est pas ça.
On va dire, allez, les lions, allez.
Non, je suis une maman qui a 4 garçons, je suis marocaine, je vais une année sur deux au Maroc, mais ce que eux ils ont montré, ce que j'ai jamais été capable, parce que, en fait, ils ont montré nos convictions, notre bonne éducation, autant qu'arabes, autant que musulmans.
Exact.
On a les bases de famille. Quand vous voyez qu'il y a des enfants, la plupart de ces enfants-là, je les appelle des enfants parce que pratiquement ils ont l'âge de mes enfants, qui ont été un peu, on va dire qu'ils ont grandi à gauche et à droite, mais pas initialement au Maroc, mais ils viennent pour montrer que la famille, elle compte beaucoup.
Radiza, c'est bien. Regardez, Anthony, il va vous faire plaisir. Regardez, écoutez ça. Là, on dit allez les bleus, parce qu'il y a les bleus aussi face à l'Argentine. Il y a allez les lions.
C'était des lions, mais c'était des agneaux autour de leur maman. Ils ont montré qu'ils sont féroces au terrain, mais quand ils vont faire un bisou sur le front, la main de leur maman, c'est pour dire à maman merci pour ton engagement, merci pour les sacrifices que tu as fait pour moi, merci pour tout ce que tu as fait pour que je puisse être là aujourd'hui. Et pour moi, honnêtement, on a gagné sur tous les plans.
Ouais.
Le reste, les statistiques, je sais pas, troisième place, quatrième place, et tout le reste, ça m'intéresse pas.
Ça vous intéresse pas, vous, ça y est, le principal est fait.
Oui, voilà. On a montré au monde qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas tout le reste. Je vais pas évoquer d'autres mots, ça sert à rien, tout le monde le sait. Mais ça a marché. Ça a marché.
Ben, merci Radiza d'être intervenue. Vous savez que la prochaine fois, il faut intervenir, hein?
Ah, bah, je vais intervenir sans problème. Il n'y a pas de souci alors.
Bienvenue Radiza.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Bonne continuation.
Merci à vous aussi. Rabat, tiens, avant de retrouver le face-à-face. Bonsoir, mon cher Rabat de Paris.
Bonsoir, Adil.
Bonsoir et bienvenue.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir.
Quel plaisir partagé, cher ami.
Ben, excusez-moi, je suis en même temps en train de récupérer des gens.
Allez-y, on fait tout ça en direct.
Excusez-moi, ça tombe très mal, mais... Ça me fait plaisir d'intervenir.
J'aime bien, c'est ça le direct là. J'aime bien. Il est en direct, il accueille des gens, allez, tout va bien. Ça va.
C'est
bien, c'est les vacances qui démarrent. C'est les vacances qui démarrent.
Ouais, je souhaitais juste apporter des précisions.
Allez-y.
Notamment sur en réaction à certains auditeurs par rapport au système de jeu. Ben, c'est tout à fait normal de changer de système de jeu quand dès l'entame du match, on encaisse un but. dans la tête des joueurs, dans la tête de l'entraîneur. Il faut y aller chercher l'égalisation, c'est normal.
Bien sûr que c'est normal.
C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Après, il y a autre chose aussi, la force de ce type d'entraîneur, je pense, Regragui, c'est qu'il s'est dit, pourquoi pas, j'y vais en demi-finale, ils vont s'attendre à ce que je défende, mais je fais autre chose. C'est là, en fait, ça ressemble un peu à ce que fait Djamel Belmadi pour l'Algérie. Mmh. Son dispositif tactique, il travaille beaucoup l'aspect psychologique, l'aspect de gagneur dans les joueurs. Donc c'est là sa force. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il est arrivé en demi-finale. Mmh. Je pense que le système, c'était normal. Il faut qu'il change de système.
Eh oui.
Donc après pour le péno, si on regarde la règle du jeu, Théo Hernandez, il a joué le ballon avant de jouer le joueur. Donc je pense pas que le Maroc soit lésé. Il a appliqué la réglementation. Donc pour moi, il n'y a pas péno. Donc pour les questions de Temim, je pense que il gère bien son pays et c'est ce qu'il fait. Il a bien aidé le Maroc. Il a supporté le Maroc. Il est arrivé en demi-finale et c'est bien. Et c'est ce qu'il fait. Je pense que ça sert à rien d'inventer des choses ou c'est ce qu'il fait. Il a bien accueilli les Marocains. Il a vraiment permis aux supporters marocains de bien aider l'équipe marocaine.
Mmh. Et il faut rester sur cette
remercie.
Note.
Il faut rester sur cette note.
Merci
pense.
Rabat de Paris. Allez accueillir vos amis. Allez les accueillir.
Merci, à bientôt.
Allez, au plaisir. Portez-vous bien, 18h48. C'est parti, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
On a attendu Mehdi Belabbas. C'est le grand retour de Mehdi Belabbas. J'y crois pas. Mettez-lui une clochette. Oh là là. On va l'applaudir. Oh là 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 là. Vous savez, c'est...
Je viens de loin.
C'est vous, Mehdi ?
C'est moi, Mehdi.
Mehdi Belabbas ?
C'est moi.
Le vrai ?
Le vrai.
Qu'est-ce qui s'est passé, Mehdi ?
Et je redécouvre les embouteillages.
Vous savez qu'il a déserté le plateau, lui. Hein. Il a tout plaqué. Il a quitté Paris. Il a dit, je vais en province. Moi, je me barre. Voilà.
Je vais au soleil.
L'un des premiers à vouloir se barrer. Hein. Bravo.
Ça faisait longtemps que j'en parlais.
Ça faisait longtemps que vous en parliez, c'est vrai, effectivement. Rappelez-nous, vous êtes à Perpignan.
À Perignan, tout à
c'est
fait.
Bien là-bas. Hein.
Ouais, c'est une
avec
autre...
un maire... bon.
Avec un maire différent.
Space quand même, non ?
Ouais, ça va ? Ça me change du mal de mer, ça c'est sûr.
La politique là-bas, ça s'arrête, non ? Je crois que.
Non, je suis toujours militant, ça. Les combats politiques.
Toujours les écolos ?
Toujours les écolos, toujours les questions de mémoire. Et puis face à lui, il y a les questions de mémoire, les questions de
ça
mémoire.
Ça sent
de
pas bon chez les écolos en ce moment. Hein.
Je sais pas si tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vu. Nous, il élève d'Estelle à l'Ouest, Louis Alliot.
Exactement. Voilà, il s'en est passé des choses ici.
Ouais, je sais.
Bon, Mehdi, c'est bien, vous êtes de passage à Paris.
Merci de m'accueillir.
Ouais. J'aime bien, vous me disiez par SMS ou MC les bouchons et tout. J'ai dit, bienvenue à Paris. Il a un peu oublié. Il a oublié que c'était les bouchons à Paris. Vous avez oublié ça, Mehdi, mais là-bas
J'étais de l'autre côté de la Seine, de l'autre côté de la Seine. À 5 minutes d'ici, en vrai. Même à pied, j'aurais été plus vite.
Ouais.
Je me suis retrouvé coincé sur le pont.
Ouais. Non, mais attendez. Vous avez oublié tout ça?
Je te jure.
Bienvenue. Voilà, ça, Paris vous le rappelle. À vos côtés, vous faites toujours de la politique, Mehdi Belabbas? Ouais, vous êtes toujours militant.
Toujours militant.
Qu'est-ce que vous faites de beau maintenant?
Voilà. Moi, je suis fonctionnaire du ministère de la Justice.
Ouais.
Voilà, mais je suis toujours président de l'association pour la mémoire contre l'oubli qui travaille sur les questions de mémoire de l'immigration.
Eh ben, bienvenue.
Très bien.
Allez, c'est parti à vos côtés. Vous savez, un homme de la finance justement, mais il est élu aussi. Il est élu sur la ville de Rueil-Malmaison, un mec de droite à tes côtés.
C'est
une belle ville.
Merci, ça fait plaisir d'entendre
Rafik
ça.
Rafik Temgari.
Merci Adil, voilà. Merci à
voilà, Rafik.
À tout nouveau, fidèles.
Toi, tout nouveau,
encore
voilà.
Un bleu.
Voilà.
Merci, mais je suis à la bonne école.
Un autre nouveau, Mehdi, que je vous présente, un avocat. L'avocat des Gilets jaunes, attention.
Maître, enchanté.
Maître David Lebesquide. Attention, comment ça va, Maître David Lebesquide?
Ça va.
Tout va bien?
Le vendredi,
vous avez votre café?
J'ai mon petit café.
Vous savez, Mehdi, je vous dis, il lâche jamais cette place-là. Vous savez, des gens, quand ils viennent ici.
On a leurs habitudes.
Ils ont leurs habitudes. Vous aviez vos habitudes ici, vous?
Moi, j'aimais bien me mettre là-bas.
Oui, c'est vrai, vous étiez toujours là.
Je me mettais toujours là-bas.
Rafik, d'habitude, il est là, je sais pas, il s'est mis là.
il faudrait maintenant qu'on mette une caméra pour que nos auditeurs puissent voir.
Bah, vous savez, Mehdi, vous savez que ça crée des embrouilles à cause de l'avocat.
Ils peuvent sur les.
Je vous jure, un jour il a viré quelqu'un de sa place. Il a dit, vire là de là, allez, c'est ma place ici. Il l'a viré. Ça m'a fait rire. Le mec, il est
tout en plus. Il a dit, ouais, c'était le bizoutage.
C'est comme Gamal Abila, il met son portable comme ça. Il a des tocs, le mec, il fait ça. Il se met ici, son micro, il est placé comme ça. Si t'as le malheur de le déplacer, non, il faut. Je lui dis, ah, non, mais c'est comme. Tu rigoles, mais c'est comme vous, hein, maître.
Ah là, moi, il y a juste la place.
Lui, il place son micro, il se met dans un positionnement comme ça. J'ai remarqué, attention, je vous observe tous. Hein.
On est bien sur BRFM.
Très
bien sur.
Allez, messieurs, tout de suite, nous allons parler du Qatargate, ce premier sujet, trêve de plaisanterie. J'essaie de mettre un peu, évidemment, d'ambiance parce que c'est les vacances. Pour beaucoup d'ailleurs, qui vont vivre leurs premières heures de vacances, et on leur souhaite de passer de bonnes vacances. Cela dit, on sera là la semaine prochaine, avant nous aussi de se retrouver en vacances, puisque la semaine du 23, 24, 25, oui, nous allons être en vacances nous aussi, histoire de changer d'air, se reposer aussi, on en a besoin, pour mieux affronter 2023, parce que paraît-il 2023, eh bien ça va être... bon, allez, c'est bien. Le Qatargate, vous le savez, continue de faire pas de lui parce que moi, j'ai envie de m'intéresser aux compagnons. Eh bien, vous savez, Deva Kelly, qui balance sur sa femme et sur d'autres eurodéputés. A-t-il craqué, tout simplement, maître David Lebesquit? Comment on peut balancer sa femme? Comment? Mais c'est horrible!
Alors, je ne sais pas s'il a vraiment balancé sa femme.
Francesco Giorgi, il a balancé,
Il est italien, lui.
Mais il a balancé beaucoup de députés italiens, je crois.
Il a avoué son rôle dans le scandale. Il a avoué son rôle dans le scandale de corruption lié au Qatar.
Il a dit, je gère l'argent liquide. Donc, c'est lui qui transporte les valises, comme on dit. C'est évidemment, c'est scandaleux.
Comment on peut balancer sa femme? C'est ça qui est terrible.
Ouais, mais bon.
Ça dépend des pressions qu'il a reçues.
Les pressions policières. C'est pas facile.
C'est la justice surtout.
Voilà, la justice, c'est pas facile. Il a reconnu faire partie d'un réseau d'influence pour le Qatar.
Du lobbying.
C'est autorisé.
Oui.
C'est bien le problème.
Alors, David, je vous redonne, maître David Lebesquit, je vous redonne la parole. Vous savez pourquoi? Parce que je dois lancer la pub.
Tout à fait.
Elle dure, elle est très courte. Hein.
Ouais.
Et on se retrouve tout de suite après. Pub. À peine une minute, à peine. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h55 pour celles et ceux qui viennent de nous rejouer de Les Informés avec Maître David Lebesquit, avec Rafik Temgari, enfin avec le retour d'un revenant de Perpignan, justement celui que vous connaissez, Mehdi Belabbas. Maître David Lebesquit, je vous redonne la parole concernant l'affaire Qatargate.
Ouais. Alors comme je disais, en fait, le problème c'est bien les lobbies qui sont accueillis par le Parlement européen. Je crois qu'il y en a à peu près 12 000 qui sont inscrits, qui peuvent arpenter les couloirs au Parlement européen et aller voir...
Comme aux États-Unis.
Oui, comme aux États-Unis, mais je pense que ça favorise la corruption. Quand on sait également que les députés européens n'ont pas une obligation, comme chez nous en France, de déclarer leur patrimoine, d'ailleurs, c'est des projets en cours qui j'espère feront date au Parlement européen. Il y a également une création d'une commission d'enquête. Enfin, en tout cas, les députés socialistes européens on demandait la création d'une commission d'enquête. Mais évidemment, je pense que le fait qu'il y ait du lobbying, ça favorise évidemment la corruption.
Alors, on va distribuer la parole, Rafik Temgari, ensuite Mehdi Belabbas. Est-ce que ça favorise la corruption? Pas sûr, mais bon, de là, effectivement, on est quand même au plus haut sommet là, du Parlement européen. C'est la vice-présidente
qui
est éclaboussée par cette affaire. Soupçon de corruption. Je crois qu'elle est en prison en ce moment même. Hein.
Ouais. Tout à fait. Parce que
ça ne pesante pas là-bas. Hein.
C'est vrai.
C'est pas comme le système en France, le système judiciaire. Où voilà, on regarde, on cherche.
Il faut dire que là, ça représente
Rafik Temgari.
Donc c'est une institution qui est très très lourde, qui pèse trop. Aujourd'hui, il y a un flagrant délit. Donc c'est pour cela aussi à faire comprendre aux auditeurs qu'elle bénéficie pas de son immunité, alors que l'ensemble des élus bénéficient de leur immunité.
Ils ont demandé l'enlever.
Non, mais ils ont trouvé un flagrant délit. Donc c'était vraiment un flagrant délit. Ils ont trouvé l'argent à son domicile. Donc il y a plus de 600 000 euros qui se baladent. On n'a pas de justificatif. Donc il y a vraiment un constat de corruption. Donc là, c'est assez... et d'ailleurs, c'est grâce au travail du juge belge qui a mis en place cette enquête. Et c'est là où on fait confiance aux institutions, je dirais, judiciaires européennes. Et d'ailleurs, pas qu'à la justice, il y a aussi des associations libres comme Anticorps, comme
belge. Hein,
c'est ce que je dis. J'ai dit
c'est pas à l'institution européenne.
Oui, mais c'est le juge est belge. Mais maintenant, c'est les institutions européennes qui sont contre ce fait de corruption et ils vont tout faire pour mettre la lumière sur ce dossier-là. Aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, c'est qui sont les députés qui sont concernés, parce qu'il y a quand même plusieurs. On a trouvé des Italiens, des Grecs. Donc, on voudrait vraiment savoir, peut-être qu'il y en aura des Français, qui sait. Aujourd'hui, on n'a pas encore toute la lumière sur cette affaire-là. On a commencé à avoir des noms et que je pense, avec le temps, on va essayer d'avoir plus de lumière sur cette histoire.
Ouais,
cette
mais bon,
histoire.
Ça quand même, hein, Mehdi Bellabbès.
Mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise dans
Pourquoi
tout ça.
Pourquoi il n'y a pas de surprise dans tout ça?
Parce que les affaires de trafic d'influence, de corruption, sont malheureusement des scandales qui se produisent de manière régulière dans de très nombreux pays européens. Et il n'y a pas de raison que l'Union européenne, dans son fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, complexe, avec deux parlements, des va-et-vient.
Y compris quand on retrouve à la maison, dans son domicile, 600 000 euros en liquide. Et qu'on nie que ça circule à la maison.
Les intérêts financiers sont extrêmement importants.
Franchement,
mais regardez en France,
vous méritez le clochette. Non mais attendez, vous pouvez pas dire ça quand même.
Le Qatar, surtout avec le Qatar. Ce qui est étonnant, c'est que qu'il se fasse prendre sur comme ça avec des valises d'argent
en
liquide.
On a aucune preuve comme quoi c'est le Qatar. On l'appelle le Qatar Gate, mais aujourd'hui, on n'a pas encore de révélations.
Mais autant d'argent.
Mais y compris en France, il y a eu des soupçons impliquant le président de la République Nicolas Sarkozy.
Oui, il y a beaucoup d'amis
qui aujourd'hui mis en examen dans un certain nombre de dossiers.
Ils sont amis du Qatar, hein.
Voilà, pour financer des campagnes électorales ou pour de l'enrichissement personnel ou etc.
Soyons pas naïfs.
Donc, voilà, il y a pas de naïveté à avoir. L'institution européenne, elle est à l'image des pays européens qui la composent et donc malheureusement avec les lobbies que Maître tout à l'heure évoquait, effectivement, il y a cette possibilité de corruption qui existe. Et qui est une réalité. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un parquet européen qui veille à ce qu'un certain nombre de règles soient respectées.
Donc ça ne vous choque pas, vous?
Moi, ça ne me choque pas.
Ça ne me choque pas.
Ça m'indigne.
Un élu, il ne doit pas être corrompu. Et ça, le lobbying vis-à-vis des élus, ça dépend. Si c'est contrepartie de quelque chose, c'est de la corruption. Mais par contre, je cite l'exemple de Zinedine Zidane qui a fait la promotion du Qatar contrepartie d'un gros chèque, oui, dirais. C'est plutôt du financement. Donc il n'y a aucun problème parce que il y a une traçabilité.
Non, il n'y a aucun rapport.
Oui, il n'y a aucun rapport, mais il y a une traçabilité. Les deux, ils ont fait la promotion du Qatar. Les deux, ils ont fait pour que ça se passe au Qatar. La différence, c'est que l'un, c'est transparent et c'est des contrats. L'autre, c'est un élu. Et donc, c'est là où le bac qui blesse, c'est qu'un élu ne doit pas faire la promotion d'autre chose.
Mais comment elle peut nier toute ma valsation? Comment elle peut nier Eva Kelly, justement, Mehdi Bellabbès? Quand même, elle est chez elle. Et elle nique avoir vu circuler 600 000 euros en liquide.
D'après les échos de la presse.
Donc chez vous, s'il y a du liquide qui circule, vous le voyez pas.
Son mari la disculpe. Son mari dit qu'elle n'est pas impliquée dedans. D'après ce que les échos de la presse.
C'est lui qui.
Peut-être que lui, par contre, qui lui a reconnu manifestement son implication dans des malversations, peut-être qu'effectivement, il a pu dissimuler ça à son épouse. Mais ça, on en est dans la spéculation.
Même son père est mené à ça. Donc c'est toute la famille,
la justice passe. Et c'est le rôle du parquet financier européen de mener l'enquête jusqu'au bout. Il y a des mesures conservatoires qui sont prises, détention provisoire, suspension de son immunité parlementaire, etc., etc. Et c'est le travail des enquêteurs qui vont permettre.
Comment ça se passe quand c'est comme ça, Maître David Libeski, justement, dans la procédure?
Après, il y a une enquête là. Alors, je suis pas certain qu'ils ont.
Non, il y a pas eu.
Qu'ils aient voté la levée de l'immunité parlementaire. Je suis pas certain. C'est en cours, me semble-t-il.
C'est un flagrant, encore une fois, dans le droit européen.
Le Parlement européen a demandé la levée en fait de l'immunité parlementaire de la vice-présidente du Parlement européen et d'autres députés.
Ça, elle a perdu sa vice-présidence. Voilà. Elle n'est plus vice-présidente, mais par contre, elle a toujours son immunité diplomatique.
Non, c'est l'immunité parlementaire.
Je crois que c'est le Parlement qui.
Mais bon, quoi.
Je corrige. Excusez-moi.
Laisse-moi terminer.
Vas-y.
Donc,
les maîtres, ils connaissent mieux.
De toute façon, ils l'ont placé en détention provisoire, parce que, bon, comme tu dis, il y a un flagrant délit. Donc, il y a le parquet, en fait, belge, hein. C'est le parquet belge, hein. C'est pas du tout, il va y avoir parallèlement une enquête européenne, évidemment. Ouais. Mais là, pour l'instant, c'est le parquet belge, hein, il va y avoir une enquête qui risque de durer. Évidemment, dès lors qu'elle n'est incapable de justifier, en fait, d'où viennent ses liquidités. Parce que bon, c'est pas parce qu'on retrouve 500 000 euros chez elle que forcément elle est corrompue avec le Qatar. si elle arrive à justifier en fait d'où vient cet argent, il y aura pas de problème. Mais si l'on passait en détention provisoire, c'est quand même il y a de forts soupçons. Hein. Il y a eu une enquête préliminaire avant concernant en fait ses activités. Donc s'ils l'ont mis au placard entre guillemets, c'est qu'il y a quand même forte chance que l'argent vient de la corruption. Mais ils ont également retrouvé chez un député italien 500 000 euros. Hein, donc c'est pas du tout la seule. Et son compagnon est assistant d'un député italien.
Alors, rectifions. Medjibelaba, c'est Rafik Tamgari.
Il y a une convergence parce qu'il y a aussi le parquet grec qui avait diligenté une première enquête. Il y a des soupçons de fraude également dans l'utilisation des assistants parlementaires. Voilà, sur des soupçons d'emploi fictif. Donc il y a une conjonction de plusieurs affaires. Et dans le cadre de ces enquêtes-là, on a découvert des fonds extrêmement importants en espèces au domicile de la députée. Donc c'est un faisceau
qu'on voulait juste apporter quelques précisions sur l'histoire du Parlement. Rafik Temgari.
Ce que j'ai lu, après, c'est à confirmer. Aujourd'hui, elle est vice-présidente. Elle a perdu sa fonction de vice-présidente du Parlement. Aussi, on lui demande de se retirer du Parti Socialiste. Parce qu'elle fait partie du Parti Socialiste. Donc, mais par contre, concernant son immunité, elle l'a perdue parce que c'était du flagrant. On a trouvé de l'argent à son domicile. Donc ça fait tout de suite, c'est un flagrant délit. Et le fait d'avoir un flagrant délit, on perd son immunité. C'est comme si,
elle a joué gros quand même. Hein.
Tout à fait. Donc c'est quelque chose.
Elle a joué gros.
Mais on n'est pas épargné par ce type d'événement. Regardez par exemple le Front National, avec l'histoire, tu en parlais tout à l'heure.
L'affaire des faux assistants parlementaires.
Voilà, l'affaire des faux assistants parlementaires. Alors, évidemment, ce n'est pas vraiment de la corruption, mais c'est du détournement de fonds publics européens, de l'argent public européen. Voilà, les emplois fictifs. Je crois que la France, malheureusement, il faut le dire, après, je ne sais pas, mais elle est classée parmi le pays, un des pays les plus corrompus. Tout le monde sait comment ça se passe dans les mairies, les adjoints à l'urbanisme.
On ne donne pas des leçons, mais il ne faut pas faire de généralité.
Vous le balancez comme ça, on dirait que c'est normal. C'est tellement banal, c'est de vous le banaliser, vous dites ces choses normales.
C'est comme tous les avocats qui prennent des honoraires selon les clients.
De grâce, vous ne pouvez pas dire que les élus... Tous les maires sont mouillés dans des affaires.
Tu dis que la France,
vous avez laissé entendre.
J'ai dit les maires adjoints, l'urbanisme.
C'est bien. Oui. Alors, en général, tous les maires adjoints de l'urbanisme.
Donc, en gros, on leur distribue des valises. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est ça?
Mais c'est assez fréquent. Mais tous les élus vous le diront.
C'est ça?
Mais bien sûr.
Donc, en gros, le maire adjoint chargé de l'urbanisme, il vous prend des valises.
C'est faux.
On prend des valises alors. Vous confirmez. Non, attendez, c'est important ce qui se dit là. Attendez. Messieurs les élus.
Excusez-moi.
Alors, vous prenez les maires.
Des maires adjoints vont porter plainte contre notre cher maître parce que tout simplement c'est de la diffamation.
J'ai pas dit les maires adjoints.
Tu as dit tous les maires adjoints à l'urbanisme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'amalgame. Venant de la bouche d'un maître, d'un avocat, c'est de l'amalgame. Il faut jamais mettre tout le monde dans le même sac, premièrement.
Alors déjà, tu n'écoutes pas quand je parle.
Mais non, c'est pas qu'il écoute pas, que tu comprends pas en disant que c'est tout le monde. Ah si, tu vas réécouter l'émission en replay, tu vas le dire.
Alors, donnons la
clochette, chers amis.
C'est pas normal. Pour un avocat, normal.
On va éviter
les généralités. Prenons des exemples concrets. Dans un pays, on a un ancien président de la République qui est condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption, trafic d'influence dans le cadre de plusieurs affaires. Il y a un système qui va pas bien. On pourrait citer aussi l'affaire Bernard Laporte et
Mais est-ce que tous les maires adjoints chargés de l'urbanisme
évidemment
tous
les maires adjoints
évitons
les amalgames. 99% des élus font correctement leur travail, ils sont engagés souvent de manière bénévole. Moi je défends l'engagement des élus locaux de proximité. Je travaille encore avec de nombreux maires partout en France et je peux vous dire que c'est un mandat qui est extrêmement difficile, extrêmement ingrat. Il faut plutôt leur tirer notre chapeau. Il y a eu des mauvaises pratiques dans le passé, mais aujourd'hui
il y a des brebis galeuses partout.
Ça reste quand même anecdotique. Voilà. Mais il y a quand même des choses qui sont malheureusement possibles et ça se fait même au plus haut niveau.
Je viens de recevoir un SMS. Certains maires adjoints vont ont décidé de porter plainte, maître.
Ah bah, je pense que c'est possible. Bah, sincèrement, c'est possible. Bah, c'est pas généralisé.
Non, je rigole, je rigole.
On va réécouter le replay.
Messieurs, non, mais il a reprécisé sa pensée. Il a reprécisé sa pensée.
Non, mais regardez, par exemple, en février 2022, j'ai vu un exemple. Jean-Louis Missika, qui est l'ancien adjoint.
Ça existe, les cas.
Laisse-moi finir. Mais tu permets.
Ça existe, les cas.
Non, mais tu permets. Eh, on n'est pas en Russie.
Non, non, non.
Laisse-moi parler. Merci. Par exemple, Jean-Louis, je me permets parce que de donner le nom, puisque ça a été diffusé dans la presse en 2022, hein, février 2022, donc il y a quelques mois en fait. L'ancien adjoint à Dan Hidalgo, Jean-Louis Missika, qui était son ancien maire adjoint à l'urbanisme, il est visé, voilà, il est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Mais il y en a plein. Antibes, le premier adjoint du maire d'Antibes en 2012, chargé de l'urbanisme. Pareil, je ne généralise pas, évidemment, on ne peut jamais généraliser.
Ouais, mais en tout cas, merci de revenir sur
cas,
ça.
Mais en tout
merci
cas, ce type d'enquête de rectifier, pour prise illégale d'intérêt, de corruption, concerne de nombreux ou ont concerné de nombreux
là, oui,
maires adjoints urbains.
Là oui,
voilà,
là,
très bien. Ça je préfère cette
voilà, là, là comme ça, je préfère comme ça, ça passe. Non, comme
très
ça,
bien.
Ça passe.
C'est bien que t'as changé.
C'est bien. Mais comme ça, ça passe.
Moi, j'ajouterais qu'il y a même quelques avocats.
On a Anthony, notre réalisateur, c'est qui est en train de se faire le replay. Non, mais il est en train de se faire le replay. Il est en train de vous écouter là.
Non, mais le nier, c'est.
On va vite ici.
Il ne faut pas faire de généralité.
Allez, messieurs, vous savez quoi? Il est 19h09 précisément. Je voudrais qu'on passe à ce second sujet. On va parler des retraites. Emmanuel Macron qui botte en touche, mais qui reporte en janvier, mais surtout Borne aussi également, qui veulent. Il y a une déclaration de la CGT, notamment du patron de la CGT, qui dit nous faire travailler plus longtemps et se foutre du reste. Mehdi Bellabas, on doit comprendre quoi dans cette déclaration? Ça va loin là. Hein.
Que le projet de loi, il est globalement ficelé.
C'est Philippe Martinez qui le dit.
Que le dialogue social.
Ah, attendez, confirmation. On vient d'entendre le replay par Anthony. Anthony, prenez le micro, Anthony.
Alors,
Anthony.
Maître, qu'est-ce que t'as dit?
Alors, maître, Anthony, dites-nous.
Il est cassé dans, quand même, parmi le pays, un des pays les plus corrompus. Tout le monde sait comment ça se passe dans les mairies, les adjoints à l'urbanisme.
Effectivement, la généralité. Ça y est, on le sait.
Il y a souvent. On ne donne pas des normes, mais il ne faut pas faire de généralité.
Ça fait tout de suite. Vous le balancez comme ça, on dirait.
Bon, voilà, ça y est, on a écouté.
Donc, au départ.
Bon,
sur les retraites.
Alors, sur les retraites.
Sur les retraites, ça veut dire qu'on a un projet de loi qui est globalement déjà ficelé. Alors que le dialogue social qu'aurait dû avoir lieu avec les syndicats, avec les corps intermédiaires, n'a pas été mené au bout. On a le corps qui est l'organe qui fait les prévisions sur les retraites, nous dit que le système des retraites est globalement à l'équilibre et qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui manifeste d'accélérer une réforme de cette ampleur-là et d'allonger la durée du travail pour les salariés, parce que ceux qui vont être concernés, c'est nous, hein, travailler jusqu'à 65 ans. Ce sera pas une masse à faire. Qu'en est-il de la pénibilité? Comment elle va être prise en compte? Qu'en est-il des carrières longues? Comment elles vont être prises en compte? Tout ça, on ne sait pas. Et on a derrière un gouvernement de toute façon qui fonctionne à coup de 49-3. Voilà. Et donc on négocie avec le pistolet sur la tempe.
On a fait 10. Même, hein. Aujourd'hui, on est à 10.
À 10-49-3. Ce qui est quand même assez dur. Donc moi, je suis assez inquiet et je pense pas qu'il y ait malheureusement de dialogue sur cette question. Le président de la République a une réforme en tête et il va y aller franco
dès janvier. Rafik Temgari.
Alors moi je pense aussi plus ou moins que ça va être très compliqué 2023 sur la réforme des retraites. Je pense que ça va être le cheval de bataille pour le président de la République. Il veut à tout prix la faire passer rapidement pour finir son mandat sur d'autres réformes et que ça va être la priorité du gouvernement. Aujourd'hui, la question que je me pose vis-à-vis de la CGT, ou là où je leur donne raison, pour moi en France, je pense qu'on est le pays où on a le plus de mal à recruter des seniors. On trouve pas. Quand on a plus de, déjà, je dirais peut-être 50 ans, 55 ans, c'est très difficile de trouver un emploi. Alors, trouver un emploi à 60 ans ou 65 ans, ça va être très, très compliqué aussi. Mmh. Donc, je me dis que déjà, on a ce souci en Europe. Alors, comment allons-nous faire pour pouvoir passer cette réforme? Je pense qu'il va y avoir un petit peu de turbulence pour 2023. Soyons spectateurs ou acteurs pour dire aussi qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas cette réforme-là.
Maître David Libeskind.
Oui, tout a été dit, mais je rappelle que quand même en 2007, avant d'être élu président de la République,
Quand il fait cette déclaration, Philippe Martinez, une situation ubuesque.
Oui, c'est une situation ubuesque. Pourquoi? Parce que, en fait, comme ça a été dit, en fait, le régime, il n'est pas du tout déficitaire. Il est excédentaire. Il n'y a qu'à partir de l'année 2027.
Bah,
c'est qu'à partir de l'année 2027 où peut-être il va y avoir de légers déficits. Mais c'est pareil. Je le rappelle, avant d'être élu en président de la République en 2017, il avait dit qu'il ne toucherait pas, en fait, aux retraites. Enfin, qu'il n'allongerait pas, en fait, l'âge de la retraite. C'est une obsession chez Emmanuel Macron, c'est une obsession chez le gouvernement. En fait, il a essayé durant son premier mandat, il a reculé pour des raisons XY, et là il remet ça. Mais 72% selon un sondage, selon le sondage de l'Institut Odoxa, 70% des.
Rafik Talgari dit, il vous dit, il vous répond, il est obligé de le faire.
Non, alors pourquoi? Oui, voilà. Non, mais par orgueil, peut-être par amour propre.
Non, je crois pas que ce soit par orgueil, je crois pas, mais non, 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 pas du tout. Absolument. Voilà, il l'a dit, il l'a volé de la bouche. C'est une position idéologique.
Et surtout, c'est une promesse électorale. Il faut le dire que maintenant.
Non, mais avant 2017, il avait dit.
Ce que je veux dire, aussi, en revanche, c'est que tout le monde s'est cassé la gueule avant. Attention.
Non, non.
S'est cassé les dents.
Non,
Fillon, je vais pas être trivial.
Non, Fillon, il y a eu plein de réformes de retraite, a dit.
Oui, il a réussi.
C'est une réforme purement idéologique pour satisfaire une partie du patronat et une partie de son électorat. Emmanuel Macron, c'est un dirigeant politique qui est attaché à une certaine idée de la valeur travail, et pour lui le travail c'est la santé, si j'ose dire, quel que soit votre état, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, et voilà, il est sur une position purement idéologique.
Non,
et
puis c'est pour favoriser les fonds d'investissement, voilà. Parce que
derrière voilà, l'idée c'est de passer à une retraite par capitalisation.
Exactement,
et sortir du système par répartition, voilà. Là aussi il y a des enjeux
donc,
financiers
donc il y a BlackRock qui attend
qui sont énormes.
Voilà, le
c'était aussi l'objectif à l'époque de Sarkozy, dont le frère était à la tête de je sais plus quel fonds.
Ouais, Guillaume Sarkozy.
Voilà, qui était à la tête d'un fonds de retraite aussi.
Bien sûr.
Je pense qu'aujourd'hui, on va être.
Je lance la pub.
Allez.
La dernière tranche de pub. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite, justement, avec vous. Ne bougez pas, restez avec nous. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
19h22, si vous venez de le retrouver, les informés avec Maître David Libeski de Dernière Ligne Droite, avec Rafik Temgari, et enfin avec un tout revenant de Perpignan en ce moment-là. Il est bien quand il est de passage par Paris, il vient nous faire coucou. Mehdi Belabbas, justement un acteur politique, mais également aussi dans plusieurs, évidemment,
associations.
Exactement. Messieurs, Dernière Ligne Droite, je voudrais qu'on parle, vous savez quoi? Vous voulez dire peut-être un mot encore sur la CGT, sur les déclarations, sur la réforme des retraites? Non? Allez, on peut passer au suivant. Vous savez, eh bien tout simplement, paraît-il qu'Emmanuel Macron, il se fait un peu secoué sur les réseaux sociaux, puisqu'on lui dit Emmanuel Macron déjà champion de la récup. Il a récupéré quoi, Emmanuel Macron? Il faudrait qu'on m'explique.
Il est président de la République, donc je trouve ça normal qu'il se
dépasse. On dit qu'il en fait trop.
C'est
quoi ça? Pourquoi on cherche toujours des polémiques?
Ses prédécesseurs avaient fait pareil.
Exactement, que ce soit Jacques Chirac.
Il se fait taper à tout va sur les réseaux sociaux. Il veut faire de la récupération politique. Il veut faire oublier l'actualité politique nationale en France, etc.
S'il n'avait pas été, on lui aurait reproché.
Moi, je ne pense pas qu'on puisse me taxer d'être un macroniste. Par contre, je peux le reconnaître, c'est un fan de foot, Emmanuel Macron.
Oui, un vrai fan.
C'est un vrai fan de foot.
Un fan
de supporter de l'OM, je crois. Donc il a vraiment il aime bien jouer au foot. On l'a déjà vu plein de fois dans ces situations-là.
Et puis vous avez parlé de qui? À parler de Jacques Chirac. En 1998, Jacques Chirac. Il était là, chauffeur de salle, etc.
Si j'étais président de la République, je serais dans les vestiaires avec les joueurs aussi, je peux vous l'assurer.
Anthony, qu'est-ce qu'il y a, Anthony?
Jacques Chirac ne connaissait pas le nom des joueurs. Il y a la vidéo de la finale.
Et puis il y avait François Mitterrand aussi en 1984.
Bien sûr.
François Mitterrand, 1984. Il n'y a été que pour remettre
l'euro.
Il a été que remettre la coupe. Il n'a pas été dans les vestiaires, il n'a pas été avant, il a remis que la coupe. Puis après, il les a reçus à l'Elysée, etc. Mais il s'est pas mis en scène avec les joueurs tel qu'on a pu voir Emmanuel Macron dans les vestiaires.
Attendez. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je vois par exemple des sur les réseaux sociaux, je vais vous donner un tweet qui a été beaucoup relayé, beaucoup, énormément. Abjecte félicitations de Macron au Qatar pour l'organisation du mondial. 6500 morts sur les chantiers, violation des droits de l'homme, et surtout ceux des femmes, persécution des LGBT, tous ces crimes dont ils se lavent les mains avec leur sang. Honte pour notre pays. Vous dites quoi? Quand on voit ça, ça a été relayé.
Je vais répondre rapidement. Moi, je lui tire chapeau au président de la République ainsi que la ministre des Sports pour deux choses.
Faut pas exagérer.
Alors, moi, si je le dis.
Il faut pas exagérer.
Attendez, mais je.
Clochette!
pas. Je vais vous dire moi l'argument. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont passé la veille au Qatar et après ils ont pris 7 heures de vol pour venir et travailler, faire une journée de travail direct.
Mais tu réponds pas à la question, Dadi.
Je finis, s'il te plaît. Et je dis juste que hier, à Rueil-Malmaison, dans ma ville, on a fait l'inauguration d'un gigantesque complexe sportif qui s'appelle le complexe Al Mimoun. Et il y avait la ministre des Sports qui est venue parce qu'elle venait après 7 heures. Donc je me dis, c'est pas de la récupération. Ils sont là, ils font leur travail, ils font le job et ils continuent. Donc ils sont présents sur les deux terrains. Et c'est très important en termes de communication qu'ils soient présents. Moi, je pense qu'il est excellemment bien conseillé et qu'il a des très bons conseillers en communication et que ce qu'il a fait était juste formidable.
Mehdi Belhadj,
moi je pense que c'est voilà, moi je pense ben que c'est oui, un fan ben de football qu'il en a voilà et puis ensuite ben il vaut mieux s'associer à des gagnants qu'à des perdants, ça n'importe quoi.
C'est clair.
Mehdi Belhadj,
c'est
bien.
Voilà, ben non, mais non, c'est vrai, il faut mieux se mettre du côté des gagnants. La France elle gagne, tant mieux pour nous. C'est logique qu'il aille encourager nos sportifs. Moi ça me choque pas.
Non, mais il y a une agence, la Franchecom, la
France. Je suis pas sûr que ce soit de la récupération politique.
Et puis comme dit Mehdi Belhadj, et là je le rejoins complètement, c'est un grand fan de foot.
Oui.
Et il a raison. Et c'est d'abord ça qu'il faut retenir.
Plaisir.
Non mais il kiffe le foot, vraiment. On a un chef de l'État qui kiffe le foot. Il adore le foot, le mec.
Après, attendez, on critique le fait qu'il soit au Qatar. Mais moi, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que la dernière Coupe du Monde, elle était où? Elle était en Russie. Donc, voilà, ça a posé de problème pour personne.
Ouais. Donc, voilà. Allez, vous voulez passer peut-être des coups de gueule, des coups de cœur?
Moi, j'ai un coup
allez-y
de cœur.
Avant que je rentre l'antenne. Hein.
Alors, un coup de gueule. On commence avec le coup de gueule. Bah, j'espère que c'est pas les jeunes qui étaient dans l'entrée de l'immeuble qui étaient à la cause de l'incendie qui était à Lyon. Donc ça, c'est un coup de gueule. Et c'est là où je me dis, il faudrait vraiment sensibiliser les jeunes qui restent pas dans ces entrées. Coup de cœur, bah, c'est pour le Maroc, pour l'équipe du Maroc. Je trouve qu'ils ont vraiment très très bien fait l'affaire. Arriver là où ils sont arrivés, moi je trouve que c'est excellent et faites-nous rêver encore.
Mehdi Belhadj.
Moi j'ai eu une pensée là pour le jeune supporter de 14 ans qui est mort à Montpellier.
Ah oui,
Denis, le jeune Eman qui a été renversé par une voiture et dont le chauffard.
Il paraît qu'il fait partie de la communauté gitan.
Je sais pas, en tous les cas, il est toujours en fuite. Et donc, du coup, voilà, une petite pensée pour lui. Et puis, le coup de cœur, oui, pour cette héroïque équipe du Maroc qui a monté haut le football africain dans cette compétition mondiale. Voilà.
Maître David Libeski,
enfin. La même chose, un coup de cœur pour l'équipe du Maroc qui, j'espère, va gagner sa troisième place samedi. Et puis, coup de cœur, évidemment, pour l'équipe de France. On espère qu'ils vont être champions du monde.
Oui. Aussi, le on l'espère aussi.
Voilà, il n'y a que l'Italie et le Brésil qui ont réussi.
Allez, les bleus, face à Messi. Ouais, absolument. Ouais. Bah oui, ils sont face à l'Argentine.
Bah on espère que Lionel Messi.
C'est ça, on va finir. On finit l'émission. Écoutez, vous connaissez ça, regardez. Ouais. Anthony, tiens, balance-moi le truc.
Bravo, en tout cas.
Allez. Ramène, c'est quoi le refrain?
Ramenez la coupe à la maison.
Allez, ramenez-nous la coupe.
J'espère
à la maison.
Qu'il va pas pleuvoir.
Voilà. Dimanche, on vous attend avec la coupe, justement. Merci à Mehdi Belhadj.
Merci beaucoup, Adil.
Vous revenez quand vous voulez?
Vous
êtes chez vous?
Dès le mois de janvier, je reviens sur Paris.
Eh bah, super. Rafik Temgari?
Je pense que vendredi prochain, ça va être la dernière de l'année. Donc, c'est ça. On va essayer de profiter aussi.
Absolument. Ouais. La dernière de l'année, la semaine prochaine?
Tout à fait, on va fêter Noël.
Ouais, on passera en revue peut-être.
Des jours d'avance.
Adil, tu m'autorises un petit coucou à tous mes amis du Val-de-Marne, à mes amis Ilyen et à mon ami Karim, masseur sportif à Ivry. Voilà, qui fait un gros boulot, notamment sur le handisport. Et voilà, j'étais avec lui cet après-midi. Je
voulais
faire un petit coucou. Ouais, j'espère.
On lui fait un petit coucou aussi.
Merci.
Voilà. Merci à vous. Merci, messieurs. Mehdi, vous revenez quand vous voulez. On vous attend. Et Anthony, c'était donc Anthony à la réalisation. Time Sport, malheureusement, ce soir, ils ne seront pas présents sur le plateau. En revanche, Vanessa est là à partir de 21h. Vanessa, évidemment, jusqu'à 23h. Quant à moi, je vous souhaite d'abord de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, si vous êtes, vous partez pas en vacances, eh bien, on remet ça dès lundi prochain, ici même en direct, pour vous accompagner tous les soirs de 18h à 19h30. Mais surtout.
On
ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.